Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8. Monsieur Roman, bonjour.
Bonjour.
Il se passe quelque chose d'important dans l'affectif, dans le respect, aujourd'hui à Cassel, rue Bollaert et rue Monclé.
Oui, tout à fait. Pour la première fois à Cassel, il y a deux Stolpersteine, donc des pavés de la mémoire qui vont être posés. Le premier pour Maurice Goris et le deuxième pour Paul Hugo, qui étaient deux Cassellois résistants qui ont été arrachés par l'occupant nazi à Cassel pendant la Seconde Guerre mondiale.
Votre association, par elle-même, elle met en valeur, elle met en avant ces résistants ?
Oui, c'est ça. En fait, nous sommes une antenne régionale d'une fondation internationale qui s'appelle la Fondation Spuren, qui est basée en Allemagne, puisque c'est une fondation qui a une dimension internationale avec 150 000 pavés posés dans le monde dans 30 pays différents.
Dans la région, dans le territoire, il y a d'autres villages ou villes qui ont participé à ce genre de devoir de mémoire ?
Oui, cette année en Flandre, on a eu plusieurs communes qui se sont mobilisées, Saint-Jean-Scapelle, Bailleul, Berten. Et l'an dernier, on avait également eu Nieppe et Steenvoorde qui avaient posé leur premier Stolpersteine.
Cette association par elle-même, elle est basée dans la région, il y a une antenne régionale ?
Oui, c'est ça, c'est une antenne vraiment Nord-Pas-de-Calais dont le siège est situé à Bailleul.
Eh bien, on peut que vous féliciter pour mettre en avant ce qui s'est passé, malheureusement passé, et que ça serve de leçon, on l'espère, c'est mal parti aux habitants.
Oui, il faut espérer aussi que d'autres villes souhaitent à leur tour prendre le relais et poser des pavés mémoriels de leur côté, puisqu'il y a toujours un projet pédagogique qui est mené avec des élèves, ce qui permet vraiment d'assurer cette transmission de la mémoire.
Merci à vous.
Merci.
Belle cérémonie.
Merci.
Paul Merlan, ancien combattant, bonjour.
Bonjour, monsieur
Bruno.
Voilà.
Monsieur Laubert.
Ouais.
Moi,
c'est Bernard Merlan.
Bernard Merlan.
Ouais.
On vous voit souvent à Cassel, le 8 mai, le 11 novembre. Ce sont les anciens combattants qui sont présents avec notre drapeau tricolore.
Oui, c'est parce que je suis d'Arnifort, mais je suis porte-drapeau pour Cassel. Et depuis peu, j'ai pris la présidence des anciens combattants de Cassel.
Vous-même, de votre côté, vous avez fait la guerre d'Algérie ou un conflit ?
Non, moi je n'ai pas fait de conflit, je suis un peu trop jeune pour ça, mais mon père c'est un ancien d'Algérie et mon grand-père c'était un ancien prisonnier de guerre, donc c'est logique que...
Que vous avez présent.
Voilà, nous les jeunes, si je peux me dire jeunes, mais c'est notre devoir de mémoire.
C'est passer la tradition, c'est dire aux personnes, souvenez-vous, il y a des gens qui se sont battus, qui sont morts pour vous.
Voilà.
Et c'est important de remettre ce sentiment national au goût du jour.
Voilà, c'est le devoir de mémoire. Ici, ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Et puis, il faut que nous, on fait suivre
cet héritage.
Cet héritage, voilà. Et c'est un héritage, mais malheureusement... Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie.
Ouais. Et il faut que les gens n'oublient pas.
Voilà, ne pas oublier. Et comme ici, la pose de ce pavé, c'est peut-être symbolique pour certains, mais c'est pour ne pas oublier tous les massacres, tous les victimes, que ce soit militaires ou civils, qu'ils ont payé de leur vie pour notre liberté.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonjour Madame Candelor.
Bonjour.
Madame Candelor, vous avez fait un devoir pédagogique avec le collège Robert Lefrison et les élèves,
oui,
au sujet de ce devoir de mémoire qui est important.
C'est ça, oui, en effet. Donc c'est un projet qui nous a pris de longs mois, dans lequel les élèves se sont impliqués grâce à l'association Stolpersteine, et dans lequel ils ont travaillé sur des documents d'archives, des ressources historiques, notamment fournies par le CHIC, donc le Cercle d'Histoire de Cassel, et ils ont travaillé sur le contexte de Cassel pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance à Cassel, et ils ont écrit des discours pour présenter la vie de Maurice Goris et de Paul Hugo à
Cassel. Donc il y a eu une histoire de recherche historique.
Oui.
C'est pas, il n'y a pas de hasard.
Non. Et en fait, ils ont eu les mêmes matériaux que les historiens pouvaient avoir pour travailler. Donc, il y a des documents d'archives, des vrais papiers, des recherches aussi historiques. Donc, vraiment le même travail qu'un historien pourrait faire. Et en plus, c'était en lien avec leur programme en histoire. Donc,
magnifique travail pédagogique et de mémoire.
Oui. Puis, je pense qu'ils ont trouvé que c'était un beau projet et ils se sont bien impliqués, donc en effet je suis fière d'eux.
Les élèves, bonjour, je ne sais pas qui veut dire un mot, comment vous l'avez vécu cette préparation de cette cérémonie ?
Cette cérémonie était très, très cultivante. On a pu apprendre beaucoup de choses, notamment sur la vie des résistants, mais surtout comment ça se passait pour tout ce qui était la déportation, donc notamment de Paul Hugo et de Maurice Goris. Donc on a vraiment beaucoup aimé faire ce projet avec Madame Candela. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé faire ce projet avec mes camarades de ma classe.
De votre côté, vous allez chanter, vous avez réalisé un poème.
Que je vais lire un poème. J'ai bien aimé en rechercher un parce que des poèmes sur la Seconde Guerre mondiale, on en trouve malheureusement assez peu. Et j'ai trouvé que c'était une tâche assez agréable.
On sait que vous êtes très jeune, très beau d'ailleurs. Vous aviez conscience de ce qui s'est passé dans ces années 40 ?
Ben, malheureusement non, parce que c'était il y a fort longtemps. Donc on en parle beaucoup en cours d'histoire, après on peut se cultiver, mais comme on n'a pas vraiment vécu la chose, on peut se dire que ça n'a pas vraiment existé, parce que surtout c'est des horreurs qui n'ont pas l'air vraies, parce que c'était vraiment des horreurs qui étaient très horrifiantes en fait, c'était déshumanisant, c'était impossible, on peut se dire que c'était impossible. Donc travailler sur ce projet, c'était entre guillemets voir la vie en face et se dire que oui,
la réalité.
La réalité, voilà, c'est ça.
Eh bien, bravo à vous, félicitations. On peut féliciter aussi votre professeur qui vous a guidé. Et ça fait plaisir de voir la jeunesse qui se bouge, qui a un devoir de mémoire. Ça fait très plaisir. Merci.
Avec plaisir. Merci à vous.
Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents à cette cérémonie. Madame, bonjour, vous êtes la directrice de l'école Saint-Joseph.
Oui, c'est ça. Nous sommes venus aujourd'hui avec la classe de CM1, CM2.
C'est un travail historique qui a été entrepris afin de venir ici. Ils vont lire un poème ou c'est
oui.
Juste sur présence?
Oui, oui, non. On a préparé en amont, on a deux lecteurs qui vont lire des poèmes et on a Perrine dans la classe qui est du coup Perrine Keber, qui est famille avec un des résistants qui est honoré aujourd'hui. Donc c'est une occasion de plus.
C'est Karine, c'est bien
non,
ça?
Perrine.
Perrine.
Elle se cache.
Elle est là-bas, elle se cache, Perrine, elle ne veut pas venir. Ah, la voilà. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Ta famille était dans le conflit et présente et est victime.
Oui.
C'est ton arrière-grand-père.
Oui.
Donc pour toi c'était important de mettre en avant cet hommage.
Oui.
Elle n'est pas contrariante du
non,
tout.
Non.
Eh bien c'est très bien. Félicitations aux enfants et puis continuez à faire ce que vous faites. Belle journée.
Merci.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de deux Cassellois victimes du nazisme par la pose de leur Stolpersteine. L'association Stolpersteine Nord-Pas-de-Calais est une antenne régionale de la Fondation internationale Spuren, dont le siège est situé en Allemagne. Le projet Stolpersteine voit le jour au début des années 90 sous l'impulsion de l'artiste allemand Gunther Demnig, originaire de Berlin. Ses premières démarches artistiques et mémorielles visaient avant tout à rendre hommage aux Roma et Sinti, plus connu en France sous le nom de Tsigane. C'est dans ce contexte qu'il pose de manière clandestine un premier Stolperstein devant l'hôtel de ville de Cologne en 92. Ce pavé, bien que différent que ceux que nous allons poser ce matin ensemble, était déjà recouvert d'une plaque de laiton, elle-même gravée d'un texte. Malgré le caractère illégal de cette première initiative, Gunther Demnig poursuit son engagement. Un second pavé, posé à Cologne quelques années plus tard, puis une cinquantaine à Berlin en 96. Après plusieurs décennies d'existence, la Fondation a posé plus de 150 000 pavés en Allemagne et dans 30 pays différents. Le premier français date de 2011 et nombreux sont maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais, 6 pour le Pas-de-Calais et plus de 100 dans le département du Nord. Il s'agit du plus grand mémorial décentralisé au monde. Sa singularité réside dans sa dimension profondément individuelle. Chaque pavé rend hommage à une personne, à une victime du nazisme. Y figure son nom, son prénom, sa date de naissance et les principales étapes de son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrestation, internement, déportation ou sort final. Contrairement à une idée répandue, les pavés ne commémorent pas uniquement les victimes de la Shoah. Ils honorent également les résistants, les fusillés, les déportés de répression, les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle, les tziganes et bien d'autres encore. Chaque pavé redonne une identité, une humanité, une dignité à celles et ceux que le régime nazi avait cherché à effacer. Le Stolperstein de Maurice Goris, celui de Paul Hugo, leur restitue pleinement cette dignité humaine. C'est la raison pour laquelle chaque pavé est fabriqué individuellement, gravé à la main dans un atelier. Et malgré le nombre croissant de demandes, la Fondation conservera ce mode de fabrication par respect pour les victimes. Dans un souci de cohérence internationale, chaque Stolperstein présente une structure de texte identique, vous allez le voir, mettant en avant les dates et lieux clés du parcours de la victime. Cette uniformité permet une compréhension universelle, y compris pour les visiteurs non francophones. Ainsi, les passants étrangers à Cassel, et ils sont nombreux, pourront aisément comprendre les parcours des deux hommes lorsqu'ils trébucheront sur leur pavé. Le thème Stolperstein, littéralement pierre sur laquelle on trébuche, invite à un trébuchement de la pensée pour que jamais, dans la course du jour, nous ne marchions aveuglément vers l'oubli. La brillance du laiton interpelle, rompt avec la monotonie du trottoir et incite à l'arrêt. Le passant est invité à découvrir le parcours de Maurice Goris, celui de Paul Hugo, et à se représenter le cadre de vie dans lequel ils évoluaient avant leur arrestation. Il les réinscrit dans leur commune, Cassel, dans leur rue, d'où ils furent arrachés par l'occupant nazi. Désormais, ils reviennent définitivement chez eux, inscrits à jamais dans le sol de la cité. Ces pavés retraçant le parcours des deux résistants se veulent également être une source d'inspiration. Leur destin de victime du nazisme doit nous interpeller aujourd'hui, alors que l'actualité fait ressurgir des discours de rejet, une montée des extrêmes et une recrudescence de l'antisémitisme et du racisme. Je souhaite saluer tout particulièrement l'engagement des élèves du collège de Cassel, collège Robert Le Frison, de leurs enseignants, de leurs principales, qui depuis des mois mènent des recherches sur Paul Hugo et Maurice Goris, réfléchir et rédiger eux-mêmes la restitution qu'ils vont vous proposer juste après. Vous êtes la dernière génération qui a la possibilité de rencontrer des témoins de cette période. Une chance, mais aussi une responsabilité, puisque maintenant c'est à vous qu'il revient cette mission de transmettre l'histoire, transmettre la mémoire des victimes du nazisme, pour que nous sachions tirer les leçons de ce passé. Comme le disait Collingwood, le seul indice de ce que l'homme est capable de faire est ce que l'homme a déjà fait. Je salue également l'engagement des élèves de l'école qui vont nous lire des poèmes et qui ont accepté avec engagement de participer à cette cérémonie. Bien évidemment, merci à la ville de Cassel, monsieur le maire, conseil municipal, l'ensemble des services concernés. Je remercie le cercle d'histoire de Cassel, cher Christophe, et porte-drapeau association patriotique toujours fidèle aux commémorations. La présence des descendants de Maurice Goris et Paul Hugo sont autant de soutiens précieux pour notre association. Et la pause que nous effectuons ce matin n'est possible que grâce à la mobilisation collective de l'ensemble de ces acteurs qui les en soient sincèrement remerciés. Les deux pauses que nous allons effectuer ce matin ne sont pas la fin du projet, c'est un relais vers l'avenir, puisque dans quelques années, il appartiendra aux élèves de Cassel, du collège et des écoles, de revenir brosser cette plaque de laiton qui va ternir au fil du temps pour lui rendre tout son éclat. Ce geste sera l'occasion de transmettre une fois encore l'histoire de ces deux Cassellois résistants aux jeunes générations pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli et demeurent pour toujours une source d'inspiration. Je vous remercie.
Messieurs, chers amis, je prends la parole non pas en tant qu'adjoint, mais en tant que petit-fils de Maurice Goris. Je remercie leur présence, Francine, Dominique, autres petits-enfants de Maurice Goris, Perrine, l'arrière-petite-fille de Maurice Goris, ainsi que celle de mon épouse. Saluez aussi la présence de Fabienne, la belle-sœur d'Olivier Goris, dont j'évoquerai tout à l'heure la mémoire. Comme vous pouvez vous en douter, j'interviens avec beaucoup d'émotion, la même que j'avais le 8 mai 2023, au moment où une plaque, en hommage à mon grand-père, avait été apposée sur le pignon de l'hôtel de ville à hauteur de l'escalier qui relie la fontaine à la rue des cimetières, endroit qui est d'ailleurs fréquenté quotidiennement par nos collégiens lorsqu'ils interviennent du moins au niveau de pour accéder à leur établissement scolaire. Ce 8 mai 2023, les deux derniers enfants en vie de Maurice étaient également émus mais surtout fiers de l'hommage que Cassel rendait à leur père. Hélas, ces dernières semaines, notre famille a été durement éprouvée avec le décès d'Olivier, fils unique de la fratrie de cinq enfants, décédé le 6 octobre dernier, à l'aube de ses 94 ans, qu'il aurait fêté le 6 juin. Quant à la petite dernière de la famille, qui avait 4 ans au moment de l'arrestation de son père, en octobre 1943, Thérèse, ma maman, nous a également quittés en toute discrétion le 13 janvier dernier. Je sens leur présence aujourd'hui. Durant toute ma jeunesse, Maurice, 16 ans à l'époque, une des filles de Maurice me racontait avec beaucoup de précision les actes de bravoure accomplis par mon grand-père avec le réseau de la Voix du Nord, et d'ailleurs Mauricette l'accompagnait régulièrement. Des noms me reviennent en mémoire, comme par exemple les cheminots, Léo Beunier, le chef de gare Perra, mais aussi Maurice Poels, ou bien encore Hubert Masson. Elle me parlait également fréquemment du capitaine Michel lorsqu'ils allaient sur l'île, ou bien également de Nathalie Dumay de Bayonne. Elle ne parlait par contre pas trop de l'arrestation qui s'est passée au château Sama suite à une dénonciation. Mon grand-père fut donc interné à Grosse-Rosen. Par contre, vers la fin 44-45, plus de traces de mon grand-père. Elle me parlait également des recherches qu'elle avait entamées avec ma grand-mère. Recherches qui n'aboutirent pas, malheureusement. Cela restera une grande blessure pour toute la famille. Je remercie au nom de la famille, Théo, l'association qu'il préside, pour la pose de ce pavé, ainsi que les représentants du CHIC, avec spécialement Christophe Lefebvre, les nombreux porte-bras de drapeaux qui sont présents aujourd'hui avec plus d'une mention particulière à notre association locale, avec son président, avec Albert Bonne, avec Michel. Je voudrais remercier également les jeunes, ce que vous disiez précédemment, ceux qui m'ont encore perpétré la mémoire, donc les collégiens avec leur documentaliste, Madame Candela, Éric Bouve, son principal, l'école Saint-Joseph, avec les classes de CM1 et CM2, sa directrice et son institutrice. Je voudrais également remercier très chaleureusement et publiquement M. le maire de Cassel, cher Dominique, pour l'investissement et le soutien à ce projet qui est aujourd'hui réalité. Un merci également particulier à mes collègues du conseil municipal de Cassel, toutes tendances confondues, pour votre présence. Vous m'êtes vraiment très 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 chaud au cœur, ça me remercie profondément. N'oublions jamais les trois valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité.
Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les principaux du collège, mesdames et messieurs, nous, élèves du collège de Cassel, héritiers d'une histoire que nous n'avons jamais vécue, mais qui nous appartient de transmettre, nous prenons la parole aujourd'hui pour évoquer une période tourmentée de l'histoire de France et de notre ville. Il y a 87 ans, en septembre 1939, le monde basculait dans l'horreur d'un second conflit mondial qui allait transformer la vie de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. En mai 1940, après de longs mois de drôles de guerre, l'armée allemande lance une grande offensive sur le territoire français. L'invasion allemande est marquée par de violents combats, des massacres et l'exode des populations civiles contraintes à fuir.
La Flandre, et plus particulièrement Cassel, se retrouve au cœur des affrontements. Dans la ville, se tient une réunion décisive des généraux britanniques et français. À la fin de cette réunion, un ordre est donné, la ville de tenir coûte que coûte afin de permettre le bon déroulement de l'évacuation des troupes britanniques lors de l'opération Dynamo à Dunkerque. La bataille de Cassel commence alors. Du 25 au 29 mai, la défense de la ville permet de ralentir l'avancée des Allemands. La réussite de l'évacuation des troupes anglaises encerclées par les Allemands sur les plages dunkerquoises repose en grande partie sur les combattants de Cassel. Mais le 22 juin 1940, la France capitule. Le nord de la France devient une zone interdite, rattachée au commandement militaire allemand basé à Bruxelles et se retrouve ainsi séparée du reste du territoire français. Pour Cassel débute alors l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. Les Cassellois découvrent leur ville en partie détruite par plusieurs jours de bataille. Ils doivent maintenant vivre sous l'occupation allemande, la peur, les privations, les arrestations, les bombardements et l'incertitude deviennent leur quotidien pendant 4 ans, et cela jusqu'à la libération de la ville le 6 septembre 1944 par les troupes polonaises.
Mais durant ces années d'occupation allemande, l'esprit de Renaissance ne s'est jamais éteint. Dès l'annonce de la capitulation, la résistance s'organise dans le Nord. Comme ici à Cassel, des hommes et des femmes de notre ville refusent alors de renoncer. C'est dans l'ombre, avec courage et parfois au péril de leur vie, qu'ils mènent de nombreux actes de résistance. La constitution de réseaux comme la Voie du Nord, des sabotages, le vol d'armement à l'ennemi, la transmission de précieux renseignements aux alliés ou l'édition de journaux clandestins. Ces actions, qu'elles aient été spectaculaires ou menées en toute discrétion au quotidien, ont tracé pas à pas le chemin vers la liberté. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour commémorer la vie de deux résistants, déportés ayant marqué l'histoire de Cassel, Maurice Goris et Paul Hugot. Ces deux Cassellois, par leur courage et leur combat, ont constitué la libération de la ville et de notre pays. À travers eux, ce sont aussi toutes les résistants, connus ou anonymes, que nous honorons aujourd'hui. En choisissant le chemin de la résistance, ils nous laissent en héritage l'engagement, le courage et la liberté. Nous n'oublierons jamais.
Mesdames, Messieurs, nous prenons la parole aujourd'hui en remplacement du domicile d'une figure emblématique de la résistance casséloise et des Flandres, Maurice Goris. Maurice Goris voit le jour le 16 avril 1902 à Bergues, père d'une famille de 5 enfants. Il exerçait dans notre ville le métier de mécanicien et de marchand de cycle. Habitant de Cassel, rien ne destinait à 38 ans de devenir un des membres emblématiques de la résistance. Pourtant, dès le début de l'occupation, Maurice Goris faisait le combat et l'engagement. Cet homme au courage sans faille, comme le précisent différents témoignages, intègrent sous le nom de code NEL plusieurs réseaux de résistance tels que La Voix du Nord, Zéro France, Batolérie ou Shelburne. De 1940 à 1943, il participe à plusieurs actions de résistance pour héberger et faire évacuer en zone libre ou vers l'Espagne une centaine de parachutistes ou aviateurs alliés, ce cas notamment de l'aviateur anglais George Barclay. Nathalie Dumez, fondateur du journal La Voix du Nord, écrit en 1954 « Maurice a hébergé puis amené à la ligne, pour aller en zone libre, de nombreux aviateurs américains. De toute la France, c'était chez lui qu'il fallait aller. » Son engagement ne s'arrête pas là, puisqu'il participait aussi à des actions de sabotage, notamment en Gardasbrook, au vol d'armes, à la distribution du journal clandestin La Voix du Nord et à la transmission d'informations vers l'Angleterre.
Chaque action représentait un danger immense pour les résistants. Pourtant, malgré les risques, il poursuivit son combat avec détermination et courage. Il est arrêté par la Gestapo et la Fell Gendarmerie le 19 octobre 1943, puis emprisonné à la prison de Loos. Le 27 janvier 1944, de longs mois de déportation commencent pour Maurice Goris, sous le statut de Nacht und Nebel, plus connu en France sous la traduction « Nuit et brouillard », qui condamne les opposants au régime nazi à la déportation et ainsi à la disparition dans le plus grand secret. Il est alors transféré, dans un premier temps en Belgique, à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles, puis à la prison d'Essen en Allemagne. Enfin, il est déporté dans deux camps de concentration en Pologne, Gross-Treslicht puis Gross-Rosen, dans lequel il disparaît sans laisser de traces, le 24 décembre 1944, sans que le mystère autour de la date et des circonstances de sa mort ne soit levé. L'État français le déclare officiellement mort en déportation le 1er juillet 1946. À la libération, la nation reconnaîtra son engagement et son sacrifice. Il reçoit, à titre posthume, différentes décorations de la République française, dont la médaille de la résistance française, le 21 mars 1947, ainsi que la croix de la chevalier de la Légion d'honneur, le 10 novembre 1955. Aujourd'hui, en évoquant la mémoire de Maurice Goris, nous honorons un homme de courage, de devoir et de sacrifice. Son engagement rappelle que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui a été conquise grâce à des hommes et des femmes qui ont risqué et souvent perdu la vie pour la France. N'oublions jamais son nom ni son combat.
Normalement, c'est Perrine qui va venir lire le petit point.
Liberté de Paul Éloi, liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les guenilles, sur les chaux de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom.
Alors nous allons pouvoir procéder à la pose du pavé. Donc la famille de Maurice Goris et un binôme d'élèves vont pouvoir placer le pavé. Alors nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de cérémonie consacrée à Paul Hugo. Et nous allons tout de suite laisser la parole aux élèves du collège qui vont nous présenter leurs travaux et nous les restituer.
Mesdames, Messieurs, je prends la parole aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Paul Hugo, un enfant de Cassel dont le destin a basculé il y a 82 ans, alors qu'il n'avait que 19 ans. Paul-Joseph Giry Hugo est né le 22 octobre 1924 à Cassel. Il est le fils d'Élie Hugo et de Lucie Dubois. Il travaillait en tant qu'ouvrier menuisier. Le 2 août 1944, Paul Hugo se trouve au domicile de sa mère, situé au 52 Constant-Monclet, lieu où nous tenons aujourd'hui. Ce jour-là, à l'aube, la Feldgendarmerie mène dans la ville une grande opération de perquisition visant des personnes suspectées de gaullisme et d'appartenance à la résistance. Lors de son arrestation, deux Feldgendarmes se présentent à 5h du matin à son domicile afin de procéder à une perquisition. Au cours de la fouille, il découvre dans sa chambre un pistolet rouillé dissimulé dans une caisse à outils. Le jeune Paul était réfractaire au STO, le service du travail obligatoire. Pour les autorités allemandes, cette situation associée à la possession d'une arme suffit à le reconnaître comme résistant. Il est alors immédiatement arrêté. Il est interné à la Crasse Kommandantur de Cassel et deux jours plus tard, il est transféré à la prison de Loos, occupé par les Allemands depuis 1941. Dans la prison allemande, les détenus sont particulièrement isolés. Les otages et résistants y côtoient des condamnés de droit commun. Il est ensuite condamné par le tribunal militaire de la Feldkommandantur à 3 ans de prison. Commence alors un long parcours de déportation dans différents camps de concentration en Allemagne. Le 1er septembre 1944, soit 2 jours avant la libération de Lille, il est ainsi déporté avec près de 866 prisonniers politiques dans ce qu'on appelle le train de Loos. Le train quitte la gare de Tourcoing pour arriver à Cologne 2 jours plus tard. Paul Hugo est ensuite conduit avec 250 autres détenus à Mülheim avant d'intégrer le camp de concentration de Sachsenhausen le 9 septembre 1944. Le 5 octobre 1944, il est transféré une nouvelle fois vers un camp allemand, celui de Korendorf, près de Heilbronn, dans ce camp satellite de Natzweiler-Struthof en Alsace. Il est condamné aux travaux forcés dans les ateliers de production d'armes installés dans les mines de sel voisines. En janvier 1945, nous n'avons plus une seule trace de Paul Hugo. Sa famille elle-même restera sans nouvelles et ne connaîtra jamais avec certitude la date ni les circonstances de sa mort. Il est déclaré mort en 1946. Selon le témoignage de René Collin, l'un de ses compagnons de déportation, Paul Hugo aurait été enterré dans un bois de sapin situé à proximité de l'infirmerie du camp en janvier 1945. Épuisé par les privations, la faim et les mauvais traitements infligés aux déportés, il n'aurait pas survécu aux horreurs du camp. Paul Hugo est donc mort 6 mois après son arrestation, loin des siens et de sa terre natale, victime des crimes nazis. Aujourd'hui, par ce discours, nous souhaitons honorer sa mémoire et transmettre son histoire afin qu'elle ne sombre jamais dans l'oubli. Le pavé déposé aujourd'hui nous rappellera son nom et son histoire chaque jour. Ne l'oublions pas.
Bonjour. bonjour à toutes et à tous. C'est avec émotion que je fais ce discours qui va être fort abrégé parce que j'ai, avec M. Goris, beaucoup discuté avec son fils pendant des années pour Paul Hugo, pour Maurice Goris, Morissette, tous ceux qui nous ont permis de rester français. Donc je voudrais aussi remercier les élèves du collège Robert Le Frison qui ont fait un superbe boulot. Quand je les écoute, et ben voilà, c'est mon bureau, c'est tout ce que j'ai pu récolter pendant des années. Et quand on dit des années, c'est en dizaines d'années. Et eux, ils l'ont fait, je ne sais pas en combien de temps, 6 mois, 1 an. Mais bravo de pouvoir retransmettre toute cette connaissance et sans perdre la moindre qualité des informations pour que la liberté existe toujours. Merci à vous, merci à Hugo, merci à Monsieur Paul Hugo, pardon, à Maurice Goris, à Monsieur Théo Hormann pour ce pavé. Au moins quelqu'un, il y aura une trace de leur passage sur Terre. Merci bien.
Avant de laisser la parole à M. le maire, il y a d'abord une élève du collège Robert Le Frison qui veut lire un poème, puis ensuite de l'école Saint-Joseph, et ensuite ce sera M. le maire qui prendra la parole.
Je vais à présent vous lire le poème « Demain » de Robert Desnos, dont les mots résonnent aujourd'hui comme un hommage à celles et ceux que nous honorons. Demain. Âgé de 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. 9 et le matin et 9 et le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille, à main bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin, nous vivons au présent.
Donc maintenant, c'est une élève de Saint-Joseph.
Bleuet, jeune homme de 20 ans, qui a vu des choses si affreuses, que penses-tu des hommes de ton enfance? Tu connais la bravoure et la ruse. Tu as vu la mort en face plus de 100 fois. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie. Transmets ton intrépidité à ceux qui viendront après toi. Jeune homme, tu es joyeux. Ta mémoire est ensanglantée. Ton âme est rouge aussi de joie. Tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi. Tu as de la décision. Il est 17 heures et tu saurais mourir. Sinon, mieux que tes aînés, du moins plus pieusement, car tu connais mieux la mort que la vie, ô douceur d'autrefois, lenteur immémoriale. Guillaume Apollinaire.
Avant de laisser la parole à Monsieur le maire, il y a donc Nelly, la nièce de Paul, et son mari Joël, qui sont également mes beaux-frères, ma belle-sœur, m'ont demandé de lire un petit mot de remerciement. 80 ans, 80 ans déjà, Cassel a décidé d'honorer deux de ses enfants, Maurice Goris, grand-père de Gérard, et Paul Hugo, notre oncle. Quel honneur pour nous de faire partie de sa famille et de pouvoir l'accompagner pour cette cérémonie. Nous avons une pensée toute particulière pour Emilienne, sa sœur, ma mère, ma belle-mère. Nous tenons à remercier Dominique, messieurs Christophe Lefebvre, Théo Hormann, Éric Bouve, Gérard, Sylviane, Madame Candela, les élèves de CM2 de Saint-Jean avec leur directrice Madame Kless et leur institutrice, les employés de la ville de Cassel pour la pose de ce pavé, les nombreux porte-drapeaux présents aujourd'hui pour honorer la mémoire de Paul, ainsi que les associations patriotiques. Merci à tous. Je laisse la parole à Monsieur le maire.
Merci Jean. Donc, mesdames, messieurs, chers élus, chers enseignants et surtout, chers collégiens, monsieur Roman, aujourd'hui notre commune inscrit dans son sol un témoignage précieux de notre histoire collective, le pavé de la mémoire. Ces pierres que nous croiserons désormais au quotidien ne sont pas simples, de simples éléments de notre paysage. Elles portent le souvenir de deux hommes, Maurice Gouris et Paul Hugo, dont les destins ont été marqués par l'épreuve, la guerre, l'engagement et le sacrifice ultime. À travers ces pavés, c'est une part de notre histoire locale et nationale qui s'inscrit durablement dans l'espace public. Il nous rappelle que ces hommes ont eu le courage de résister à l'oppression, de défendre la dignité humaine et de se battre pour les valeurs de la liberté, de justice, de fraternité qui fondent notre République. Grâce à leur courage et à leur engagement, nous avons aujourd'hui la chance de vivre dans un pays libre, où chacun peut exprimer, apprendre, débattre et construire son avenir. Cette liberté, qui peut parfois nous sembler acquise, ne l'est pourtant jamais définitivement. Elle a été conquise et préservée au prix de nombreux combats et de lourds sacrifices. C'est pourquoi nous avons un devoir essentiel, celui de transmettre la mémoire, car une société qui oublie son histoire s'expose au risque de voir renaître les erreurs et les drames du passé. Je souhaite m'adresser plus particulièrement à vous, collègues, et éventuellement, aux classes les plus petites, aux plus jeunes. Ces pavés sont désormais ancrés dans notre sol, mais leur véritable place est dans nos mémoires. Chaque fois que vos regards se poseront sur eux, souvenez-vous qu'ils marquent l'endroit où l'histoire à rencontrer le destin humain. Aujourd'hui, la mémoire de Maurice Gouris et de Paul Hugo vous est en quelque sorte confiée, car demain, les témoins directs de cette période auront disparu. Ce sera alors à votre génération de faire vivre leurs souvenirs. En passant devant eux, prenez un instant pour entendre ce que le silence de ces pierres vous dit encore. N'oubliez jamais. Vous serez les ambassadeurs de cette mémoire à travers vos paroles, vos réflexions, vos engagements et les valeurs que vous porterez. Vous aurez la responsabilité de transmettre ce que ces hommes ont défendu au prix de leur vie. La mémoire n'est pas seulement un regard tourné vers le passé, il est une lumière qui éclaire l'avenir. Tant que le souvenir de celles et ceux qui ont combattu pour la liberté sera transmis et partagé, leur sacrifice conservera tout son sens et sa portée. Je forme le vœu que les enseignants poursuivent et transmettent aux collégiens cette histoire avec toute la force et la sensibilité qu'elle exige, afin que vive et se perpétue ce devoir de mémoire qui nous engage, nous. Car c'est par cette transmission patiente et fidèle que le souvenir de ces hommes continuera d'éclairer les générations à venir. Je vous remercie.
Je meurs à la guerre. Aujourd'hui, pour moi, sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flots sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir, je meurs sous vos bombes. Pourtant, je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville, sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Déjà l'aigre boit la dune, au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle,
et l'oiseau bleu brillant de mille éclats.
Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles des forêts
et ce lac bleu perdu au fond des bois.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre.
Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le dapper pour repousser la mort,
traquer la rac jusqu'au bout de la vie.
Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord,
dire aux faiseurs de mort que l'on survit.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre.
Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui profitent de gens qui
et qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas,
qui ne se connaissent pas.
Mais qui ne se massacre pas.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre.
Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Je m'éteins dans la rue des Lilas.
Thank you.